Bonjour.
Alors, question toute simple pour débuter cette interview avec vous, qui résonne d'ailleurs crise après crise. C'est d'ailleurs le propos d'un des personnages à la toute fin de votre bande dessinée. Est-ce qu'on est tous foutus ?
Vous connaissez cette citation de Keynes célèbre, à long terme nous sommes tous morts, donc c'est juste une question de temps avant que vous ne mouriez et que tous les gens qui nous écoutent ne meurent. Je sais pas exactement ce qu'on appelle tous foutus. Si la question c'est est-ce qu'il n'y a absolument plus rien à faire face à la situation, la réponse est bien évidemment non. Si la question est-ce que désormais on peut reprendre en main notre destin de telle sorte qu'on évite absolument toute conséquence désagréable en ce qui concerne le réchauffement climatique et toute évolution sans effort en ce qui concerne la décarbonation, la réponse est non aussi.
Est-ce que ce n'est pas trop tard, du coup ? C'est ça la croix. Vous qui suivez ça depuis 20 ans.
Même question, même réponse. Trop tard pourquoi ? Trop tard pour agir, non. Trop tard pour éviter toutes les conséquences désagréables de ce que nous avons déjà mis en route, si.
Alors, vous, dans votre livre, vous détaillez les différents éléments au cœur de ce réchauffement climatique, la question de la température, des ressources, la question aussi de la motivation, de l'adhésion de la population. On va essayer de détailler tous ces éléments. Mais tout d'abord, un contexte. On est en pleine COP, on a une succession de crises. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un momentum politique, qu'il y a une prise de conscience que cet enjeu-là devient la priorité mondiale ?
Alors, la priorité mondiale, sûrement pas. La priorité mondiale reste, à mon avis, comme elle a toujours été, la volonté pour les nations d'affirmer leur puissance et de se réserver une place au soleil, sans mauvais jeu de mots. J'ai pas l'impression que ça va fondamentalement changer dans aussi longtemps qu'il y aura des sociétés organisées. L'idée, ça sera quand même toujours d'essayer d'avoir un peu plus que sa part du gâteau au détriment du voisin. C'est quand même comme ça, globalement, que les pays se comportent. Et la grande coopération internationale, elle ne fonctionne que dès lors qu'elle sert les intérêts égoïstes de chaque pays. C'est quand même ça la réalité, on va dire, la réalité sociologique de l'humanité.
Donc la COP bougera seulement si les grandes puissances ont des intérêts internes,
tout exactement. Alors vous savez que la COP s'est organisée par les Nations Unies, puisque la Convention climat, la COP en fait c'est la réunion des pays qui ont signé, enfin qui ont ratifié plus exactement la Convention climat, qui dit qu'il faut s'occuper sérieusement de la question des émissions de gaz à effet de serre, si je fais court. C'est un traité onusien, c'est un traité qui est régi par les Nations Unies, et aux Nations Unies, tout se décide à l'unanimité. Donc c'est assez facile de comprendre que dès lors que vous avez une assemblée de 200 pays qui doit décider des choses à l'unanimité, ça ne peut prendre des décisions courageuses, cette assemblée, que dès lors que les pays constituant cette assemblée ont déjà décidé de les prendre pour des raisons internes.
Donc vous n'y attendez rien ?
Alors j'en attends qu'on en parle, ce qui est déjà pas mal. Là vous voyez par exemple on en parle en ce moment, s'il n'y avait pas de COP peut-être que vous parleriez moins de climat. Par contre il ne faut absolument pas attendre des COP, un miracle qui serait externe au pays. Donc les actions courageuses qui se passeront en Belgique, elles ne se passeront pas à cause des COP, elles se passeront parce que le gouvernement belge ou des acteurs belges, quels qu'ils soient, je ne sais pas, des fédérations patronales, des fédérations syndicales, enfin des organismes syndicaux, des associations, etc. Et auront entraîné une partie de la population dans la bonne direction.
Alors parlons des objectifs. Vous dites que si on veut éviter la dérive climatique, ou en tout cas on veut faire en sorte que cette dérive climatique reste sous les 2 degrés d'ici 2100, il faudra une diminution de nos émissions de 5% par an.
Oui.
Est-ce que, objectivement, cet objectif est réaliste ?
Alors ce 5%, il ne sort pas d'un chapeau. Il correspond, vous connaissez peut-être, à un petit outil informatique qui s'appelle Excel. Et quand vous demandez à Excel ce que signifie en termes de baisse annuelle une division par 3 des émissions d'ici à 2050, Excel vous dit ça fait moins 5% par an. Voilà. Cette division par 3, elle vient du fait que quand vous regardez la quantité maximale de CO2 qu'on peut mettre dans l'atmosphère si on veut que le climat ne se réchauffe pas de plus de 2 degrés, eh bien vous arrivez à une quantité qui est suffisamment limitée pour que les émissions doivent être divisées par au moins 3, les émissions planétaires, hein, d'ici à 2050. Alors, il y a 2 années, sur le siècle qui vient de s'écouler, où les émissions ont baissé de 5%. Il y a eu la première année du Covid, 2020. Et puis, il y a eu 1945, qui est l'année où on a éradiqué l'appareil industriel de l'Allemagne et du Japon. Donc, ça donne une petite idée de l'effort qu'il faut entreprendre. Question, est-ce qu'on est parti pour le faire ? Non. Deuxième question, est-ce qu'on va pouvoir y échapper de toute façon ? La réponse est non. Aussi, parce que les émissions de gaz à effet de serre viennent essentiellement de 2 composantes, l'utilisation des combustibles fossiles, et il faut des dizaines ou des centaines de millions d'années pour faire du pétrole, du gaz et du charbon. Donc une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. La Belgique le sait très bien, les riches mines de charbon qui ont fait à une époque la fortune de la Wallonie, ben elles sont parties, et puis on ne va pas les recréer. Exactement pareil pour l'Alsace et la Lorraine en France, et exactement pareil pour les mines de charbon de la Ruhr. Donc, une fois que les combustibles fossiles les gisements sont épuisés, de toute façon, on ne peut plus en avoir. Donc au pire, cette baisse, elle aura lieu, alors peut-être pas de 5% par an, mais au pire, cette baisse, elle aura lieu quand le monde passera son pic de production pétrolier, son pic de production gazier, son pic de production charbonnier.
Ça veut dire qu'autant on met la tension politique là, sur cette génération-ci pour faire des efforts, autant en fait, notre génération, on ne connaîtra pas une baisse de température mondiale.
Non, probablement pas. De toute façon, l'inertie du système est telle que dans les 20 prochaines années, ce qui va se passer est raisonnablement indépendant des efforts qu'on va faire. Dit autrement, entre un scénario dans lequel on taperait dans les réserves de combustibles fossiles tant qu'on peut, et ça, ça permettrait probablement aux émissions de CO2 de continuer d'augmenter pendant encore quelques décennies, pas jusqu'en 2100, mais on va dire jusqu'en 2040, c'est pas impossible. Donc ça serait le haut de la fourchette, j'ai envie de dire. Le bas de la fourchette, c'est qu'effectivement, on commence à baisser les émissions demain matin de 5% par an. Eh bien, en termes de température, la différence entre ces deux évolutions, elle est infime pour les 20 ans qui viennent. C'est après que la différence devient extrêmement marquée.
Ça veut dire
que les 1,5 degrés, on va les dépasser de toute façon.
Ça veut dire, Jean-Marc Jancovici, que même si on arrête plein de choses dans le comportement dès demain matin, les 50 degrés à Paris ou à Bruxelles, dans quelques années, on les aura, quoi qu'il arrive, en juillet et en août ?
Alors, je ne sais pas si on aura dans quelques années 50 degrés, mais ce que je sais, c'est que on va probablement les avoir avant la moitié de ce siècle. Parce que, je le redis, les 1,5 degrés, là actuellement le climat s'est réchauffé d'un peu plus de 20 degrés, hein, 1,1, et on est sur un rythme de 0,2 degrés par décennie. Donc de toute façon, dans les 20 ans qui viennent, on va dépasser les 1,5 degrés, et ça on va les dépasser à peu près quoi qu'on fasse, sauf pandémie mondiale qui tuerait la moitié de la population, chute d'une météorite dans un scénario à la Don't Look Up, effondrement économique et guerre mondiale dans les pays occidentaux, enfin voilà. Dit autrement, sauf à ce qu'on ait quelque chose qui limite très très fortement les émissions à cause d'un événement assez désagréable dont on n'a pas spécialement envie, on va dépasser les 1,5 degrés. Oui.
Alors comment on mobilise l'opinion publique, comment on conscientise, c'est un peu votre job depuis 20 ans. Vous dites une phrase dans ce livre qui est assez intéressante. Un des personnages explique que le monde de l'écologie se divise en deux catégories. Il y a ceux qui veulent la mort du pêcheur et ceux qui veulent la rédemption. Moi, je veux sa rédemption, dit le personnage qui est donc vous, Jean-Marc Jancovici. La culpabilité est inhibitrice de l'action. On repose cette question régulièrement à nos invités. Est-ce qu'actuellement, le combat politique écologique est culpabilisant ?
En France, il y a eu, alors je vais citer des chiffres pour la France, vous me pardonnerez de faire de l'importation de chiffres. Les écologistes ont obtenu aux dernières élections présidentielles, au premier tour, sauf erreur de ma part, un peu moins de 5% des voix. Alors même que dans notre pays, et je pense que la situation en Belgique doit être à peu près la même, quand vous demandez aux gens si les problèmes environnementaux les préoccupent, et où est-ce qu'ils les classent dans l'ensemble des problèmes qui les préoccupent, ça arrive assez haut. Et vous avez quand même une grosse moitié de la population qui considère que c'est quelque chose d'important ou de très important et qu'on n'en fait pas assez. Donc il y a un écart évident entre la préoccupation de la population et les gens qui prétendent être dépositaires dans le débat politique de cette préoccupation.
Comment vous expliquez ça ? Vous remplissez les amphithéâtres de toutes les universités de France, 600 000 abonnés sur votre compte LinkedIn. Enfin, comment vous expliquez-vous alors ce décalage ?
Probablement parce que, justement, le mouvement écologiste politique, il est issu d'un mouvement qui était à l'origine protestataire, et c'est assez difficile de transformer un mouvement protestataire en un mouvement de proposition. En général, c'est pas très très simple. Quand vous savez, on voit tous autour de nous des gens qui rouspètent en permanence. Ces gens qui rouspètent en permanence, on les voit pas comme des leaders charismatiques le lendemain qui vont proposer un truc construit, sympathique, auquel on a envie d'adhérer. C'est difficile de passer du rôle de « je rouspète tout le temps en expliquant que tout va de travers » au rôle de « j'ai un plan très bien construit ».
Et cela s'accentue. On voit les mobilisations, oui. Les actions de plus en plus radicales, notamment sur les œuvres d'art en ce moment, enfin sur les vitres des œuvres d'art.
Mais vous voyez bien que les mouvements qui créent une très grande adhésion, et qui sont pas nécessairement les partis politiques installés dans le domaine de l'écologie. Hein. Voilà, c'est pas. Et une des choses que sont souvent obligés de faire les partis politiques écologistes, en tout cas c'est comme ça que ça se passe en France, c'est de se rallier à une coalition qui en échange leur lâche 3 sucettes. Donc en France et en Belgique, on a eu la même, c'est l'arrêt du nucléaire. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est pas des gens qui vont réussir à être autonomes sur un programme complet. Et à se faire élire pour ça.
Venons-en justement à ce chapitre nucléaire qui rythme la vie politique depuis 20 ans quasiment en Belgique. La Belgique avait fait le choix de remplacer son parc nucléaire progressivement par du renouvelable. Vous aviez toujours dit que c'était une ineptie. Pourquoi ? Que dites-vous aux dirigeants belges ?
Alors, je dis la chose suivante. La question du changement climatique et de la diminution subie des énergies fossiles, c'est une course contre la montre. D'accord ? On lutte contre le temps. Quand on est dans une course contre la montre, s'occuper de remplacer quelque chose qui n'est pas le centre du problème par autre chose, c'est une perte de temps. C'est-à-dire que vous allez y consacrer des moyens, vous allez y consacrer des cervelles, vous allez y consacrer des matériaux, vous allez y consacrer de l'argent. Et ça n'aura pas résolu votre problème principal puisque vous êtes en train de vous occuper d'un problème secondaire.
C'est ce qu'on fait en Belgique pour l'instant.
Oui, mais comme en France. C'est-à-dire que la volonté de remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables, c'est remplacer une énergie qui est décarbonée déjà, puisque le nucléaire c'est décarboné. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ça émet des gaz à effet de serre à cause des aéro-réfrigérants, vous savez, ces grandes tours de refroidissement. Mais en fait, ces tours de refroidissement n'émettent que de la vapeur d'eau, ça sert juste à refroidir.
C'est une énergie potentiellement dangereuse. C'est aussi pour ça qu'elle fait des
morts. Mais tout est potentiellement dangereux. Vous savez, si on commence à s'intéresser à ce qui est potentiellement dangereux, là, il faut que la Belgique arrête dardard. Les voitures, les cigarettes, et un certain nombre, l'alcool, etc. Et demande, vous savez que les centrales à charbon tuent chaque année en Europe des dizaines de milliers de gens à cause de la pollution aux particules fines. C'est beaucoup plus dangereux que le nucléaire. Donc l'idée que le nucléaire est dangereux est quelque chose qui a été véhiculé à coup de slogan, et ça surreprésente. Oui, c'est dangereux, mais il y a plein de trucs qui sont dangereux. Les escaliers, c'est dangereux, ça fait quelques milliers de morts par an en France. Donc l'idée que le nucléaire est particulièrement dangereux et que ça mériterait qu'on s'en passe pour lutter contre quelque chose qui, lui, pour le coup, est très dangereux, qui est le changement climatique, est quelque chose auquel je ne souscris pas. Donc remplacer une énergie décarbonée, qui est le nucléaire, par d'autres énergies décarbonées que sont les énergies renouvelables, pour moi, c'est perdre son temps. Ce qu'il faut, c'est remplacer les énergies fossiles par une combinaison d'économie d'énergie, d'énergie décarbonée, donc là-dedans, nucléaire et renouvelable. Et il faut regarder ça de manière un peu pragmatique, parce que, je le répète, on est dans une course contre la montre et on commence seulement à en sentir les effets. Ça commence seulement. Hein.
Et on en vient à votre chapitre sur la question des ressources. Vous écrivez ceci, le monde dans lequel nous vivons est un monde fini, d'où le titre, hein, le monde sans fin. Et croire que nous disposerons toujours des ressources énergétiques à notre disposition aujourd'hui, c'est se bercer d'illusions. C'est une phrase qu'on a beaucoup entendue. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on consommera le moins. La seule et unique solution à la crise, c'est la sobriété. C'est moins consommer, consommer autrement.
C'est ça, de toute façon, auquel la physique va nous forcer. Parce que, je le redis, 80% de l'approvisionnement mondial aujourd'hui, c'est des énergies fossiles. Et en fait, la totalité des pays occidentaux sont dans la mondialisation. Donc même si on ne consomme pas domestiquement que des énergies fossiles, ce qui est le cas en Belgique ou en France, en fait, on bénéficie quand même d'un système mondialisé dopé aux énergies fossiles. Essayez en Belgique d'acheter une fourchette ou une casserole qui soit pas made in China, bonjour. Essayez d'acheter un frigo qui soit pas made in China, bonjour. Essayez d'acheter
même
un vêtement qui soit made in Belgium, bonjour,
voilà.
Etc. Donc, en fait, vous vivez comme en France, hein, dans la mondialisation, et cette mondialisation est alimentée par des combustibles fossiles. Ces combustibles fossiles, je le répète, sont épuisables, à supposer même qu'on n'ait pas envie de s'en passer pour des raisons climatiques. Donc de toute façon, il va falloir faire avec moins. Donc cette sobriété, c'est simplement le fait de l'accepter, de l'anticiper, de le planifier. L'autre alternative s'appellera la pauvreté. Mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est faire avec moins sur le plan matériel, mais cette fois-ci d'une manière subie.
Est-ce qu'on basculera tous dans la sobriété si nous on fait des efforts?
Non, on peut basculer dans la pauvreté.
Est-ce que l'Inde, l'Afrique, parce que c'est aussi un de ces enjeux de la COP, va aussi être embarqué dans cette...
Alors l'Inde et l'Afrique vont connaître la même évolution que nous sur le plan énergétique. Si je discrimine un tout petit peu, dans les énergies fossiles, il y a une énergie mondiale qui est le pétrole, parce que c'est liquide et dense, donc ça se transporte très facilement. Deux tiers du pétrole passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation. Le pétrole a passé son pic pour la production conventionnelle en 2008, donc le conventionnel, c'est tout sauf le pétrole de schiste aux États-Unis et les sables bitumineux du Canada. Et sur la partie, si on rajoute le pétrole de schiste et les sables bitumineux, probablement que ça a été novembre 2018. Le pic de production mondiale du pétrole.
Donc il n'y en aura plus jamais autant.
Et donc ça veut dire que l'approvisionnement va se mettre à baisser, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas.
Il reste une énergie pour le gaz, c'est le charbon.
Alors pour le gaz, c'est 2030, le pic mondial. On a fait une analyse au chiffre project. Et pour le charbon pour le coup est une énergie très régionale, parce que c'est un pondéreux solide, donc ça ne se transporte pas bien. Donc là, la question c'est qui en a? Et si vous additionnez la Chine, les États-Unis, la Russie, alors pas dans cet ordre-là, en fait, dans l'ordre des réserves, c'est d'abord États-Unis, ensuite Russie, ensuite Chine, ensuite Inde et ensuite Australie, vous avez les trois quarts du charbon mondial. L'Europe n'en a plus. L'Europe a un peu de lignite en Allemagne.
Et donc ces pays-là pourraient continuer, même si l'Europe bascule dans la
société. Absolument. Donc nous, de toute façon, on est en décrue charbonnière depuis les années 50, on est en décrue pétrolière depuis 2006, on est en décrue gazière depuis à peu près la même époque. Donc de toute façon, nous, on va devoir faire avec de moins en moins. Et ce que feront les autres, ça ne nous intéresse pas tellement. Le meilleur pari que les Européens ont, c'est eux de se lancer dans la décarbonation et d'inventer le mode qui va avec, parce que de toute façon, on va en avoir besoin pour nous.
Alors, est-ce qu'on est crédible quand on donne des leçons justement aux autres pays pour les embarquer, notamment lors de cette COP27?
Il faut essayer de les persuader, mais vous savez, quand vous fumez 20 cigarettes par jour, vous n'êtes pas très crédible pour dire à quelqu'un qui en fume 3, il ne faudrait pas fumer. Donc, le meilleur moyen d'être crédible, c'est de faire les choses chez nous.
On rappelle votre livre, Jean-Marc Jancovici, Le Monde.